Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote!
À voix nue, Caroline Brouet.
Serge Chalandon, journaliste, écrivain, flâneur salarié.
Cinquième épisode, le roman vrai. Bonjour Serge Chalandon.
Bonjour.
Pour ce dernier temps de nos à voix nues, je voudrais qu'on parle de votre travail de romancier, journaliste, journaliste, romancier. Et pour ce faire, j'ai souhaité que nous montions dans votre antre. Vous dites parfois votre sanctuaire. C'est un bureau. C'est un bureau. Alors effectivement, c'est un bureau où il y a une bibliothèque, beaucoup de livres et beaucoup d'objets rapportés, je suppose, de voyages, de reportages et peut-être aussi d'autres moments de votre vie, puisque je vois Guignol.
Oui. Guignol et Niafron, puisque Guignol ne va pas sans Niafron. Les deux héros lyonnais.
Il y a plein de petits objets. Un Calimero.
Il y a Calimero. C'est un peu moi Calimero, mais à côté, il y a Pikachu. Donc là, c'est autre chose. Mais j'ai une collection de bustes. Ça va de Lénine à John Wayne, en passant par Samuel Beckett.
Le pape.
Lequel,
d'ailleurs ?
C'est Jean-Paul II qui est en train de bénir un soldat de la Légion irlandaise, napoléonienne. Donc c'est un peu anachronique, mais c'est pas grave.
Des drapeaux ?
Des drapeaux. Alors des drapeaux assez particuliers, puisqu'il y a le drapeau irlandais, le drapeau basque, le drapeau breton, le drapeau corse. Donc nous sommes dans les nations sans État. Ou les États sans nation. Il y a Bobby Sands, bien sûr.
Bobby Sands, en photo.
Bien sûr. Il y a une grande affiche de l'affiche rouge.
Et alors justement, c'est cette bibliothèque et tous ces objets, parce qu'on n'en a cité que quelques-uns parmi tous qui sont là, sont derrière vous. Oui. Ils vous tiennent chaud, ils vous protègent, mais vous ne les regardez pas ou vous retournez tout le temps quand vous écrivez à votre table?
Non, je sais qu'ils sont là. Je sais qu'il y a des vivants et il y a des morts. Il y a mon traître qui est ici.
Le Denis,
voilà. Donc le vrai. Donc je sais qu'ils sont là, je sais qu'ils existent. Et c'est pas qu'ils me protègent, mais ils sont dans mon dos. Oui, c'est ça. C'est une protection, je pense. Un peu étrange.
Et même un nunchaku.
C'est un nunchaku de l'époque où le nunchaku était un moyen d'expression comme un autre.
Est-ce que ce bureau, Serge Chalandon, dit quelque chose de votre façon de travailler?
Alors, je travaille face à un mur blanc. Et ça, c'est différent. Donc, je travaille face à un mur blanc et je le remplis de ce que je suis en train de faire en ce moment. Mais là, il y a un dépouillement absolu. Là, je vais enlever maintenant tout ce qui est devant moi parce que je travaille face à un mur blanc. Je sais pas, je suis vraiment entouré de vivants et de morts. C'est quelque chose qui me touche infiniment.
On va retourner s'asseoir, comme là, il n'y a qu'une place à votre bureau. On va retourner en bas, dans votre salon, pour qu'on s'assoie à table. Et vous allez nous parler de la réalité et de la fiction, la façon dont vous travaillez, la façon dont vous concevez le roman. Et d'ailleurs, vous écrivez des romans, vous dites que vous écrivez des romans, mais c'est quoi pour vous un roman? Nous voilà revenus à table. Je reprécise ma question. Par exemple, est-ce que c'est important de préciser roman à chaque fois?
Oui, c'est important de préciser roman, puisque d'abord, le mot roman, c'est un moyen de se protéger. Et puis oui, je précise roman, parce que dans mon travail sur l'Irlande, sur la trahison irlandaise, je suis un luthier. Mon travail sur le quatrième mur et Sabra et Chatila, je suis un metteur en scène. C'est-à-dire, ce n'est pas moi. Donc il y a un moment donné où moi, je n'existe pas, je me cache derrière des personnages avec un masque de carnaval qui est évidemment transparent puisqu'on sait de quoi je parle, mais bien sûr c'est un roman dans le sens où il y a un socle de vérité. Je suis journaliste, moi. Le problème que j'ai, c'est que, alors, contrairement à d'autres, hein, il y a des romanciers qui disent que le romancier a tous les droits. Moi, je pense pas qu'il ait tous les droits. Je pense que lorsqu'on s'attaque à des choses comme Barbie, par exemple, ou comme dans L'Enragé, ces enfants qui étaient prisonniers,
à la colonie pénitentiaire.
Voilà. Je pense que lorsqu'on travaille là-dessus, il faut que tout soit sacré. C'est-à-dire que tout soit réel. Moi, quand je travaille sur Belle-Île, j'ai besoin d'aller à Belle-Île, j'ai besoin de sentir la pluie sur moi, comme mes personnages vont sentir la pluie sur eux. J'ai besoin de toucher le mur. Ils vont s'évader de cette colonie pénitentiaire. Il y a un mur, il faut que je touche ce mur. Il faut que je sente le mur qui vibre. C'est-à-dire que tout ça, moi, je ne peux pas l'inventer. Je ne sais pas faire. Je ne peux pas être le Christ en croix. Je ne peux pas être un mousquetaire. Je ne peux parler que en fait de ce que j'ai vécu. Après, il y a une partie roman, c'est-à-dire que je par exemple dans ce dernier livre, L'Enragé, je suis l'un des enfants de la pénitentiaire. Mais pourquoi je suis l'un des enfants de la pénitentiaire? Parce que je sais, je connais, j'ai vécu le coup de ceinture sur mon dos d'enfant. Et parce que j'ai vécu ce coup de ceinture sur mon dos d'enfant donné par mon père, je sais ce que c'est que la morsure d'une ceinture sur un dos. Si j'avais pas connu ça, j'aurais pas pu l'écrire. Donc ce sont mes limites de romancier, je crois. Il faut que j'ai vécu, il faut que j'ai entendu, il faut que j'ai vu pour pouvoir écrire et pour pouvoir ensuite rentrer en fiction. Mais je ne peux pas, il y a des gens, je me souviens, c'est très drôle, qui me disent, moi, Rome, c'est un romancier qui m'a dit ça, moi, Rome, je l'invente. Je suis jamais allé à Rome, je m'en fiche, j'invente mon Rome à moi. Je peux pas. Il faut que j'aille à Rome, si je veux parler de Rome. Il faut que je tourne à droite, à gauche, il faut que je note tout. Il faut que le lecteur, si ça lui prenait, par exemple, il tourne dans cette rue-là, il tombe sur la petite trattoria dont je parle dans le roman, avec la petite nappe à carreaux rouges et blancs. Tant que j'ai pas vu cette petite nappe, je peux pas faire entrer mes personnages de roman. Je veux que le théâtre, je veux que le lieu où ils vont évoluer soit absolument exact. C'est-à-dire que je suis obligé d'y croire moi-même pour faire croire les autres. C'est-à-dire que
C'est quand même encore le journaliste qui parle.
Alors non, c'est pas le journaliste.
Une prolongation ou un prolongement du journalisme narratif, vos romans.
C'est un prolongement de la recherche de la vérité. Je peux pas inventer Rome, parce que si j'invente Rome, je pense à mon père.
Vous trahissez Rome.
Je trahis Rome et je trahis ce qu'est pour moi le roman, c'est-à-dire que mon personnage qui va évoluer dans Rome que je ne connais pas, mais que je vais connaître, je veux qu'il évolue dans une ville réelle. Dans une ville réelle. C'est-à-dire que si je ne m'immerge pas dans l'histoire, c'est-à-dire que avant de créer un personnage, il faut que ce personnage vive dans un lieu qui existe. Je ne peux pas inventer une ville. Ou bien alors, je peux inventer une ville, mais j'ai peur qu'il y ait un vieil érudit dans un coin qui me dise « Mais c'est pas comme ça, Rome. » Donc c'est toujours le même problème que j'ai, journaliste ou auteur, j'ai le problème de « C'est pas comme ça. Ça n'existe pas. » Vous mentez sur cette histoire.
Il faut que tout soit vrai pour que la fiction passe.
Alors oui, que tout soit vrai, sauf les personnages. C'est-à-dire que quand j'écris L'Enragé, ça se passe en 1934. Donc évidemment, il y a quelqu'un dans le salon du livre qui m'a dit « En 34, mais ça vous fait quel âge ?» J'ai trouvé ça tellement joli. Mais cet enragé, cet enfant de 1934, ne peut exister parce que je sais ce qu'il mangeait, parce que je sais quel est ce mur.
Donc là, c'est l'historien. C'est le travail de documentation que vous avez fait. Non. Parce que là, vous ne l'avez pas vécu. Non, vous n'êtes pas allé dans cette colonie qui a fermé.
Non, je suis allé dans cette colonie vide. Je suis allé dans les cellules. C'est-à-dire que si je n'étais pas allé dans les cellules, je n'aurais pas pu écrire les cellules. J'ai besoin de rentrer dans la cellule, de sentir la cellule. Oui, toujours. C'est comme pour les enfants d'Izieux. Je suis allé dans la maison d'Izieux avant le procès Barbie dont on a parlé, et je suis allé dans la maison d'Izieux pour toucher les murs, parce qu'il y avait encore les dessins d'enfants sur les murs. Et ça, pour moi, c'était extrêmement important de sentir. Si je ne sens pas, tout vit, tout vibre. Si cette vibration, je ne l'ai pas en moi, c'est mort. S'ils ne sont pas en moi, ça peut pas marcher. Les cris des enfants de la colonie pénitentiaire, si je les entends pas lorsque je suis dans la colonie pénitentiaire, même vide, si je ne les entends pas, on ne me croira pas.
Est-ce que c'est aussi une façon, passer à la fiction, écrire un roman sur Chalandon, de dire « je » là où le journaliste ne peut pas? Vous nous expliquiez dans les émissions précédentes que le journaliste, la plupart du temps en tout cas, par décence, par respect, parce que ce n'est pas son travail, s'efface derrière ce qu'il raconte. Est-ce que, même si vous êtes un luthier, même si vous êtes un metteur en scène, même si vous n'êtes pas vous-même exactement, le roman permet non seulement de dire « je », mais de laisser la place aux émotions qui ont été quand même bien souvent contenues?
Bien sûr, c'est-à-dire que si on prend le procès Barbie, mon père était dans mon dos. Je l'ai pas écrit dans le journal, ça. Jamais je l'ai écrit, parce qu'on s'en fiche. C'est-à-dire que on ne lit pas un journal comme Libération sur le procès Barbie pour que le journaliste dise que et mon père était dans mon dos. On s'en fiche. En revanche, le roman permet de remettre mon père dans mon dos. Le roman me permet de pleurer. Le roman me permet de haïr. Le roman me permet toutes ces choses que le journaliste ne me permet pas, heureusement. C'est-à-dire que moi, il y a un truc que je supporte pas. Enfin, bon, c'est assez courant, mais je supporte pas quand un journaliste, tout le début de son article, un journaliste de guerre, par exemple, nous raconte les risques qu'il a pris. Mais c'est ton boulot, bonhomme. C'est ton boulot. C'est-à-dire que tu vas pas faire un demi-papier sur j'ai passé les checkpoints et j'ai failli me faire tuer. Mais bien sûr, c'est ton travail. Donc ça, mais dans un roman, oui. Dans un roman, tu peux passer les checkpoints et avoir peur de mourir, mais pas dans un journal. Et donc, en fait, moi, je ne voulais pas faire de roman. Moi, ce que je voulais, c'est à un moment donné, revisiter des choses que j'avais vécues et pouvoir dire
différemment,
avec un autre nom, avec un autre visage, avec un autre âge même, ou avec un autre sexe, comme quand j'avais un cancer de garçon, et tout d'un coup, j'ai écrit un roman sur un cancer de femme, et j'étais une femme.
Une joie féroce.
Une joie féroce. Tout ça fait qu'un journaliste ne peut pas faire ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne suis plus... Le roman me permet d'être plus bridé par l'actualité, même bridé par la vérité. Et c'est formidable. C'est-à-dire, tout d'un coup, je ne suis plus bridé par la vérité, c'est-à-dire que je peux être metteur en scène de théâtre, et c'est bouleversant parce que je peux être enfin ce que Sorge n'a pas pu être. Mais tout d'un coup, je suis Georges et je peux être metteur en scène.
Vous dites la vérité, en même temps, tous vos romans sur Chalandon montrent qu'il y a souvent autant de vérité que de personnages, sauf les faits.
Oui.
Il y a une différence quand même entre les faits et la vérité.
Alors pour moi, les faits sont absolument sacrés, mais ce qui m'intéresse, c'est ça qui m'intéresse dans le roman, c'est que le roman vous permet d'incarner vos propres contradictions. C'est-à-dire, j'offre dans un roman, le salaud qui va parler dans le roman, ben c'est peut-être ma part de salaud. Et ça, c'est formidable, parce que tout d'un coup, je peux être la personne duel qui est en moi, ou la personne qui a 4 visages, 5, 10, 20 visages, peut être incarné par des personnages différents. Donc on dit, c'est incroyable, il y a plein de gens dans ce roman, non, en fait, il y a que moi. Et j'offre à d'autres personnages des attitudes différentes, j'offre des pensées différentes, je peux offrir de la saloperie à un personnage, et en fait, c'est ma propre saloperie. Et ça, c'est extrêmement important, c'est-à-dire que c'est ça, j'incarne différemment tout ce qui est en moi. Je peux incarner la barbarie dans un personnage, et en fait, c'est une barbarie que je cache, contre laquelle je lutte, mais dans un roman, j'ai le droit de l'incarner. Tout ça, un journaliste n'a pas le droit de faire tout ça. C'est pas possible. Le journaliste va parler du barbare qu'il interviewe, par exemple, mais moi, quand j'interviewe un barbare, comme un tueur d'enfants ou un tueur, je me demande quelle est la part de moi qui pourrait comprendre ce qu'il est en train de dire. Ça ne peut pas être un journaliste qui fait ça. Un romancier peut le faire, en incarnant un barbare.
Est-ce qu'il y a aussi une dimension de réparation dans le travail de l'écriture du romancier? Je vous pose cette question parce que la critique littéraire Raphaël Léris, dans Le Monde, a remarqué que nombre de vos romans naissent de ce qui n'a pu avoir lieu. Par exemple, les explications avec votre père ou avec l'ami traître de Lyra. Par exemple, dans Le Jour d'avant, qui est issu d'un reportage que vous n'aviez pas pu aller faire après l'explosion d'une mine dans le quartier de Saint-Amé à Liévin, où 42 mineurs sont morts en 1974. Ou même L'Enragé, qui vient d'un article que vous n'avez pas écrit sur la fermeture de la colonie pénitentiaire pour mineurs. Alors, est-ce que d'une certaine façon, le roman vient réparer ce qui n'a pu advenir?
Alors, je trouve extrêmement intéressant cet article, parce que d'abord, c'est la première fois qu'on me le disait, et ça m'a fait prendre conscience, effectivement, que... Alors, le mot « réparation » est immense, donc je n'arrive même pas à le dire, mais en tout cas, oui, c'est-à-dire que c'est un moyen de retourner sur les lieux en continuant les histoires ou en la terminant. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que, oui, j'ai pas pu parler à mon père. Oui, je n'ai pas pu faire ce reportage sur la mine. Oui, et le roman me permet. Alors, je sais pas si c'est une réparation, mais me permet aussi de rendre des comptes à l'homme que je suis et qui n'a pas été au bout. Et pour moi, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que d'entendre mon traître me parler alors qu'il est mort, de voir mon père hurler alors qu'il est mort, ou toutes ces choses-là m'offrent la possibilité de refaire le film en allant jusqu'au bout. Mais réparation, c'est tellement immense comme mot. C'est un mot qui est... Il y a des mots comme ça que je n'ose pas, réparation. Ce mot-là, je n'ose pas. Mais retourner sur les lieux, comme sur les lieux du crime, et essayer de reconstituer avec ce que j'ai vu, avec ce que j'ai entendu, et refaire et aller au bout de ce que je n'ai pas pu entamer.
Ce qui est sûr, c'est qu'en tous les cas, vous accordez un très grand pouvoir, je dirais même, à la littérature. Si je prends juste un exemple dans votre œuvre, Sans Chalandon, avec La légende de nos pères, qui est l'histoire d'un livre à naître commandé à un biographe par la fille d'un homme qui lui-même s'est construit, disons, une légende de résistant pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il se trouve que le biographe cherche la vérité et que la fille cherche sa chimère d'enfant. Les choses vont se passer un peu différemment. Le cœur de ce livre, me semble-t-il, c'est qu'au fond, le livre, le roman, est ce qui apparaît comme le seul capable de révéler la vérité. C'est le livre même qui révèle la vérité.
C'est le livre qui révèle la vérité, et parce que je n'ai pas d'autre choix, je n'ai pas d'autre façon de révéler la vérité. Et moi, ce qui m'intéresse, par exemple, dans ce livre-là, et c'était ma dernière tentative de dire à mon père, je sais que tu mens. Donc j'écris un roman quand même qui est d'une clarté absolue. C'est une fille qui pense que son père est un grand résistant, comme moi je pensais, et qui embauche un biographe familial qui va se rendre compte qu'il fait quelque chose qu'aucun biographe familial ne fait. Il va vérifier. On ne fait pas ça. Lorsqu'on est biographe familial, on écoute ce que l'autre dit et puis on fait le petit livre qu'il veut pour la famille et les amis. Il va vérifier. Il va s'apercevoir que tout est faux, que son père n'a jamais été ce grand résistant qu'il prétend être. Et moi, j'offre ce livre à mon père. J'offre ce livre à mon père de son vivant pour lui dire, tu vois, voilà, c'est une femme, une jeune femme qui se rend compte que son père lui a menti sa vie entière et qui va lui pardonner et qui va lui dire « je t'aime ». Et qui va lui dire que ta vie, ta vraie vie, vaut mieux que la vie rêvée que tu m'as infligée toute mon enfance. Et la fin de ce livre-là, l'auteur que je suis va être renvoyé par la femme, par cette fille et son père, va être renvoyé d'où il vient, c'est-à-dire à son petit métier de romancier qui n'a aucune importance. Et mon père n'a pas lu ça. Mon père n'a pas compris ça. Ça a été ma dernière tentative de lui dire « je sais ». Et il a lu ce livre en me disant, et c'est une phrase qui est terrifiante, « Mais tu crois vraiment que des menteurs comme ça existent ?» Et je l'ai regardé en disant, « Ben oui, je pense que ça existe. » Et ça s'est arrêté là. Et plus jamais, je n'ai tenté de lui faire comprendre que je savais qu'il mentait. Et moi, c'était le seul moyen. Pour le coup, là, c'est une mise en abîme qui est terrible. Je fais un roman sur un mensonge en espérant que le menteur, mon père, ce menteur, va le lire et va comprendre que c'est à lui que je m'adresse. Mais comme il n'a pas l'habitude des romans, comme cet homme dont je parle, il vient de Lille, donc c'est pas lui. Comme il était dans la SNCF, c'est pas lui. Comme c'est pas un homme, c'est une fille, donc ce n'est pas moi. Et tous les stratagèmes que j'avais mis en place pour être clair et lu par lui se sont effondrés sur, il a buté contre le roman, il a pas compris. Il s'est retrouvé, je lui ai offert à ce personnage de père, je lui ai offert les mules de mon père, je lui ai offert son pull, je lui ai offert sa façon de parler, de se racler la gorge. Enfin, c'est évident que c'était lui. Ma mère, à un moment donné, m'a dit, mais tu parles pas de ton père dans ce livre-là. C'est le seul moment où ma mère m'a dit quelque chose qui était vrai. Tu parles pas de ton père. Et je lui ai dit, ben si. Et elle m'a dit, ben tu sais, il a rien compris. Hein. Voilà, le seul moment. Et le roman, c'était le moyen de m'approcher de lui. J'avais pas d'autre moyen.
Et lui, il se disait soldat et pas romancier.
Alors lui, d'ailleurs, il disait soldat et pas romancier. C'est formidable, ça, c'est ce qu'il a...
C'est inventer des vies.
Voilà.
Pour ça que le romancier, peut-être, n'invente rien.
Alors, je n'invente rien. Alors, je n'invente rien parce qu'il a tout inventé. Et je suis, c'est-à-dire que moi je suis obnubilé par le mensonge. quelque chose qui m'obnubile, c'est-à-dire que moi je supportais pas lorsque ma fille était petite et quand je lui demandais ce qu'elle avait mangé à la cantine, il disait de la terre, c'était pour rire, mais sauf que je supportais pas qu'elle me dise de la terre parce que je savais qu'elle avait pas mangé de terre, mais il fallait que l'on m'explique que les enfants ont le droit aussi de rêver, ont le droit de mentir. J'avais extrêmement peur qu'elle retombe, que ce soit mon père en miniature qui mentait. Donc ça, c'est quelque chose qui me trouble énormément.
Vous dites qu'on m'explique. Je voudrais qu'on m'explique. Souvent, vous l'avez dit ça. Je voudrais qu'on m'explique. Et c'est intéressant que vous disiez ça parce que je crois que précisément, écrire, pour vous en tout cas, ça n'est pas expliquer.
Non.
C'est montrer. Vous le mettez d'ailleurs dans la bouche du biographe dans La Légende de nos pères. Vous dites, pour raconter une histoire, je devais connaître le motif d'une toile cirée sur une table de cuisine. Je devais entendre les gestes et regarder les mots. Et plus j'aurais de couleurs, et plus j'aurais de musique, et plus le livre serait vivant. Ça, vous le reprenez à votre compte.
Absolument. Mais oui, c'est-à-dire que j'offre à ce biographe familial mes travers, c'est-à-dire pas trop de mots et beaucoup de silence et voir d'ailleurs. J'aime pas regarder, moi ce que j'aime c'est voir.
Comment approcher l'évident, le simple, des feuilles qui frissonnent? Alors, vous avez des pages sur les feuilles qui frissonnent. Ouais. Parce qu'écrire frissonner, c'est déjà s'éloigner de la feuille. Elles ne frissonnent pas, les feuilles, on vous entend parler. Elles font tout autre chose que ce qu'en dit le vent. Elles ne bougent pas, elles ne remuent pas, ne palpitent pas. Elles feuillent, voilà, elles feuillent les feuilles. Elles font leur bruit sans autre mot. Et le ciel, il nuage. C'est la quête du mot juste.
Alors c'est la quête du mot juste. Alors évidemment, là, j'exagère. Mais j'aimerais... Oui, c'est la quête du mot juste. J'ai été bègue, donc lorsque j'étais enfant, très bègue.
On en retient les phrases hachées, la langue.
Alors voilà, on en retient d'abord
les phrases courtes.
Les phrases courtes. J'écris la phrase où je dis une phrase et je me réfugie derrière le poing pour repartir à l'assaut. Les mots sont des petits soldats. Donc ces petits soldats font une phrase. Mais je trouve formidable, maintenant encore, quand je vois les gens qui parlent de façon fluide comme ça, c'est bouleversant. Parce que moi, je suis obligé d'avoir des mots en réserve au cas où les mots ne sortent pas. Et ça, c'est quelque chose qui est terrifiant, qu'on ne sent pas toujours, mais qui me hante. Les mots ne me sont pas dus. Les mots, il faut aller les chercher. C'est comme on a raconté dans une autre émission, le guignol que je trahis. C'est-à-dire... Ces mots-là, écrits ou parlés, il faut qu'ils sonnent juste. J'ai jamais crié, par exemple. J'étais à l'extrême gauche. Jamais crié CRSSS. Jamais! Parce qu'on sait ce que c'est que les SS. On sait ce que c'est que les SS. Donc jamais. Ce sont des mots que j'aurais pas pu dire, j'aurais pas pu scander. Parce que d'abord, ils sont ridicules. Et en plus, c'est pas possible. Si les SS viennent, qu'est-ce qu'on va dire? SS égale SS, qu'est-ce qu'on va dire? Et donc moi, ça, c'est quelque chose qui me, ne jamais se tromper sur les mots. Et ne pas rajouter des mots. Je t'aime. C'est formidable, je t'aime beaucoup, il ne reste plus rien. Et ça, c'est quelque chose qui est...
D'ailleurs, vous n'écrivez pas sur l'amour, vous écrivez sur l'amitié, sur la fraternité, sur la sororité.
Je ne sais pas faire. Enfin, je suis né sans amour, et en revanche, j'ai appris la fraternité après, sur le tard. Lorsqu'on est sans connaître la douceur du regard d'une mère ou du cou d'une mère, son odeur, lorsqu'on s'endort enfant, lorsqu'on n'a pas connu ça, je pense que l'amour, on ne sait pas ce que c'est. On imagine, on singe, on fait comme les autres, on imite. Mais comme je ne sais pas ce que c'est, je ne peux pas écrire sur l'amour, je n'ai pas les mots. D'autres le font merveilleusement bien. Mais voir un homme et une femme qui courent sur une plage, moi, il faut qu'il y ait une mine oubliée de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, pouf, ça saute. Mais je n'imagine pas le soleil couchant et on se regarde et on s'aime. Je ne peux pas l'écrire, ça. Je trouve ça ridicule, je n'y arrive pas. Même un baiser. Écrire un baiser... Deux bouches qui deux lèvres qui se touchent, je n'y arrive pas. Je trouverais que c'est je n'y arrive pas, je trouve ça idiot, je trouve ça impossible et je trouve ça illisible. Je n'y arrive pas.
Il y a quelque chose qui est quand même tout du long qui revient comme une constante dans votre littérature sur Chalandon, c'est que ce soit des histoires d'enfants mal aimés, de pères ou d'amis traîtres, de guerres, de femmes atteintes d'un cancer qui serre les coudes, de mineurs que vous arrachez à l'oubli, d'amis qui sont liés par un serment pour conjurer la mort. C'est toujours des histoires de mensonges, de fraternité-sororité, de salauds et de justes, de violence et d'amitié. Il y a des tourments, il y a des doutes, des parts d'ombre. Mais presque à chaque fois, en tous les cas, c'est le cas dans Le Jour d'avance, c'est le cas dans L'Enragé, pour n'en citer que deux, il y a toujours la part lumineuse au bout.
Bien sûr.
Il y a toujours la lumière au bout du tunnel et c'est ça qui l'emporte. C'est votre foi profonde en l'humanité ? C'est quoi ?
Alors, j'ai longtemps cru que c'est une petite blague, mais que j'aimais bien quand on disait « je vois la lumière au bout du tunnel », je répondais « fais attention, c'est peut-être le train qui arrive en face ». Donc ça, c'est un truc qui me touche depuis l'enfance. Mais la lumière, c'est ce qui me tient debout. C'est-à-dire, au pire moment dans la famille, au pire moment des coups de mon père, au pire moment des guerres, la lumière, c'est un... Dans une guerre, dans un abri bombardé, c'est tout d'un coup le rire d'un enfant, c'est un visage de femme, c'est un regard, c'est une main sur ton épaule, c'est ça, la lumière. Donc oui, bien sûr qu'il y a la lumière. C'est-à-dire que si en plus, ce sont des sujets qui sont durs, si en plus il n'y avait pas de lumière, je suis destiné à rester dans l'obscurité. Je peux pas. Je viens des ténèbres, c'est pour en sortir. Autrement... il n'y a pas de sens. Donc, si on ne peut pas en sortir vraiment, ben on fait des romans. Et on fait en sorte que les personnages de ce roman sortent à la lumière, aillent à la lumière.
Vous êtes plus Simenon que Hugo ?
Alors, je suis plus Simenon parce que j'aime sa façon de regarder, j'aime sa façon d'observer. J'adore ça. J'adore Simenon. Les petits riens de Simenon, j'adore ça. Hugo, c'est-à-dire que Simenon, pour moi, c'est Eric Satie et Hugo, ça peut être Wagner. C'est-à-dire que Hugo, c'est magnifique, Hugo. Mais j'ai pas de cap sur les épaules. Je ne suis pas face au flot déchaîné, avec la chevelure au vent. Moi, je suis plutôt, je suis un petit artisan. Simenon, moi, ce que j'aime, c'est le silence de Simenon. Simenon, c'est formidable, c'est que vous avez comme dans le Bourgmestre de Furnes, qui est l'un de ces, c'est la littérature dure de Simenon, hein, dite dure. Mais vous avez une fenêtre éclairée le soir avec le Bourgmestre qui seul le soir dans sa mairie, avec la fenêtre qui reste éclairée. Pourquoi elle est éclairée, la fenêtre ? Qu'est-ce qu'il fait, le bourgmestre ? C'est rien, ça. C'est rien. Mais ça part de là, et tout d'un coup, c'est magnifique. Et il n'y a pas d'effet. Il n'y a pas d'effet, chez Simenon. Il n'y a pas d'effet. Il y a juste les mots justes.
Vous venez de caresser la table, oui, de votre salon avec votre main gauche. Je dis gauche parce que c'est important. Vous avez aussi la gauche et la droite.
Je suis un gaucher contrarié.
Rapport à Guignol, à ce que vous racontiez, par rapport à votre engagement politique, même par rapport aux notes dans vos carnets, vous prenez des notes sur la page de droite, elles sont différentes des notes sur la page de gauche. Mais je voulais vous amener à votre main gauche parce que à votre annulaire, vous avez une bague.
Une bague d'appartenance. Ça s'appelle une Cladaring. C'est une bague irlandaise. Et c'est une bague d'appartenance. C'est une... Voilà, c'est vous appartenez. Alors vous appartenez à la religion catholique, vous appartenez au mouvement républicain, vous appartenez à quelqu'un. Mais en tout cas, lorsque la pointe du cœur est dirigée vers votre cœur, vous êtes pris. Et quand vous retournez la pointe du cœur vers l'extérieur, vous êtes libre. Donc c'est assez facile. Moi, je suis pris.
Vous êtes pris.
Oui.
Un grand merci à vous, Sœur Chalandon, pour ces 5 entretiens qui arrivent à leur terme. Et comme on s'est prêté à un exercice que j'ai quasiment trouvé... dans la légende de nos pères, j'aimerais bien vous proposer, pour terminer, de lire un court extrait à deux voix.
Mmh. Comment procède-t-on ? A demandé Beuzabok.
Habituellement, les gens parlent, ils se racontent et je les aide, je pose des questions, je fais préciser une anecdote, je remets les souvenirs en ordre.
Habituellement ?
Oui, c'est ma méthode de travail.
Et avec moi, comment allez-vous faire avec moi ?
J'ai dit que je n'avais pas beaucoup de choix, que l'écriture d'une biographie était une rencontre. Un échange. On me prêtait une vie et moi j'offrais des mots. Il fallait aussi que quelque chose se passe. Ce n'était pas de l'amitié, mais une émotion entre la cordialité et la confiance. Des secrets sortis de leur boîte qu'il faudrait que j'apprenne à détenir aussi. J'ai expliqué que je n'étais ni psychologue, ni confesseur, que je mettais simplement mon ancienne pratique de journaliste au service d'une vie privée. Nous avons essayé de faire ça. Merci beaucoup à vous.
Merci à vous.
C'était À Voix Nue, chargé de programme Daphné Abgral, prise de son Christophe Papon, réalisation Guillaume Baldi, une série de Caroline Brouet, disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.